Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous continuons ce dimanche nos sermons en l'honneur de Saint Dominique pour honorer le 8e centenaire de sa naissance au ciel. Et aujourd'hui, nous allons parler de Saint Dominique et de la défense de la foi contre les erreurs et les hérésies. Dans la préface propre de Saint Dominique au missel dominicain, l'Église s'adresse ainsi à Dieu. Pour l'honneur et la défense de votre Sainte Église, vous avez voulu renouveler la forme de la vie apostolique par le bienheureux patriarche Dominique. Celui-ci, soutenu toujours par le secours de la mère de votre fils, a dompté les hérésies par sa prédication, a institué pour le salut des peuples des champions de la foi, fidei pugiles, et a gagné au Christ des âmes innombrables. De ce texte, il ressort trois choses qui, en réalité, n'en forment qu'une seule. Saint Dominique a inauguré une nouvelle forme de vie apostolique spécialement ordonnée à la défense de l'Église. Cette nouvelle vie apostolique visait à dompter, à réprimer les hérésies. Et comment cela ? En instituant des champions, des combattants de la foi, pugiles fidei, pour œuvrer au salut des peuples. Ces mots « pugiles fidei et vera mundi lumina », des champions de la foi et de vraie lumière du monde, sont en fait repris de la bulle du pape Honorius III du 22 décembre 1216, bulle qui est considérée comme la charte de fondation de l'ordre des prêcheurs et qui définit leur fonction propre dans l'Église. Ils doivent être des « pugiles fidei » et vera mundi lumina, des combattants de la foi et de vraie lumière du monde. Et c'est pourquoi ces mots ont été inclus au tout début des constitutions de l'ordre de Saint Dominique. La prédication de Saint Dominique cherchait donc non seulement à enseigner au peuple la vérité catholique, mais aussi à dénoncer les erreurs et les hérésies qui empoisonnaient les âmes. Et ce fut même historiquement la première intention du saint fondateur. C'est cet aspect que nous voudrions souligner aujourd'hui. Commençons par donner quelques témoignages à l'appui de cette affirmation. D'abord, le témoignage de Dieu lui-même dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Dieu a confirmé que tel était bien le but premier de l'ordre de Saint Dominique. Dans ce dialogue qu'il a dicté à Sainte Catherine, il dit « Dominique a choisi la science pour extirper les erreurs de son temps. Je le plaçais dans le corps mystique de la Sainte Église pour extirper les hérésies. » De même, dans la charte de fondation de la maison de Prouille, la première maison des dominicaines contemplatives fondée par Saint Dominique en 1206, l'évêque Foulque déclare qu'il concède cette maison de Prouille sur les prières du Seigneur Dominique d'Osma aux femmes converties par les prédicateurs qui furent délégués pour repousser la peste hérétique et pour prêcher contre ses fauteurs. Ces prédicateurs, ce sont les premiers compagnons de Saint Dominique. Et puis en 1215, le même Foulque, lorsqu'il installe les frères prêcheurs dans sa ville de Toulouse, dit de même qu'il les fait venir pour extirper la perversité hérétique. Et puis enfin et surtout, le bienheureux Humbert de Romans, le cinquième général de l'ordre dominicain, dans sa vie de Saint Dominique, écrit lui aussi que la défense de la foi fut la première raison historique de la fondation de l'ordre, plus encore que la simple prédication. Elle en a été le principe inspirateur, le principe inspirateur. Et il continue, l'intention ensuite s'est amplifiée, embrassant non seulement la défense de la foi, mais tout le ministère de la prédication évangélique. Et tout cela est d'ailleurs parfaitement conforme à ce qu'on pourrait appeler l'événement fondateur de l'ordre des prêcheurs, événement qu'on a appelé la nuit de Toulouse, survenu en 1203. Voici comment le bienheureux Jourdain de Saxe, le premier successeur de Saint Dominique, raconte cet épisode. Vous le savez, Saint Dominique accompagnait l'évêque d'Osma, qui avait été chargé par le roi de Castille d'aller chercher au Danemark l'épouse qu'il destinait à son fils. Alors les deux voyageurs qui étaient partis de Castille et qui se rendaient donc vers le nord de l'Europe s'arrêtèrent à Toulouse. Et voici ce que dit le bienheureux Jourdain. Lorsque Dominique eut découvert que les habitants de ce territoire, depuis un certain temps déjà, étaient devenus hérétiques, il se sentit troublé d'une grande compassion pour tant d'âmes misérablement égarées. Au cours de la nuit même où ils logèrent dans la cité, le sous-prieur, saint Dominique était sous-prieur d'Osma, attaqua avec force et chaleur l'hôte hérétique de la maison, multipliant les discussions et les arguments propres à le persuader. L'hérétique ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit qui s'exprimait. Par l'intervention de l'Esprit divin, Dominique le réduisit à la foi. Donc, vous voyez, la première fois que saint Dominique vint en Languedoc, ce fut pour passer toute une nuit à convaincre et convertir cet homme qui avait été égaré par l'hérésie. Et cet événement va décider de la vocation de saint Dominique. Pendant 10 ans, il restera en Languedoc, en plein pays cathare, et se consacrera presque seul à la lutte contre l'hérésie, prêchant aux foules et aux individus égarés par l'hérésie les vérités de la foi, mais aussi dénonçant l'erreur et l'imposture des hérétiques et multipliant les disputes et les controverses publiques avec les chefs cathares. Ces disputes ont été très nombreuses. Comment se passait-elle ? On faisait connaître à l'avance le jour et le lieu où aurait lieu une conférence contradictoire. Et les hérétiques, comme les catholiques, s'y rendaient de tous les pays voisins. On désignait alors des juges, et les champions de chaque camp se livraient à des débats approfondis qui pouvaient durer plusieurs jours et parfois même plusieurs semaines. De part et d'autre, on présentait des libelli, des libelles, sortes de mémoires rédigées d'avance sur les questions disputées et qui servaient de base à la discussion. Et puis au terme des débats, les juges désignaient le vainqueur. Dans ces joutes, où ils se trouvaient souvent isolés et desservis par la mauvaise foi et le parti pris des juges qui souvent étaient désignés par les hérétiques eux-mêmes, saint Dominique, s'il n'obtint pas toujours le succès, fut cependant largement béni de Dieu. Plusieurs miracles prouvèrent non seulement sa sainteté, mais la vérité de sa doctrine. Certains de ces miracles vous ont été racontés par le père Marie-Dominique il y a 15 jours, notamment le miracle du feu qui est arrivé plusieurs fois. Le libelle de saint Dominique qui avait été jeté dans le feu par les hérétiques dans l'espoir qu'il brûlerait a été rejeté par les flammes à plusieurs reprises pour attester de la vérité de son contenu. L'histoire a gardé le souvenir de nombreuses conversions d'hérétiques opérées dans ces occasions. Saint Thomas, le plus célèbre des fils de saint Dominique, a justifié cette manière de faire, que saint Paul d'ailleurs avait déjà pratiquée avec les Juifs. Il suffit de lire les Actes des Apôtres pour s'en rendre compte. Saint Augustin également avait agi de même avec les Manichéens d'Afrique. Donc ces controverses publiques n'étaient pas nouvelles. Mais saint Thomas a voulu les justifier, les expliquer. Voici ce qu'il dit dans la Somme. « Doit-on disputer publiquement avec les hérétiques ?» C'est la question qu'il pose. Alors il répond, « Si ceux qui écoutent sont des gens simples et qui vacillent dans la foi et qui sont attirés ou même poussés par des hérétiques qui s'appliquent à détruire en eux la foi, que ce soit des juifs, des hérétiques ou des païens, alors oui, il est nécessaire de disputer publiquement devant eux sur les matières de foi pourvu qu'on soit suffisamment capable de réfuter les erreurs. » Cette précaution est importante. Il est évident que n'importe qui ne peut pas faire ça. Saint Dominique était parfaitement préparé par des études approfondies et longues. Saint Thomas continue. « Par là, en effet, les simples seront confirmés dans la foi et on enlèvera aux infidèles la possibilité de les tromper, tandis que le silence de ceux qui auraient dû résister aux pervertisseurs de la vérité de la foi serait une confirmation de l'erreur. » Quelle belle justification de l'apostolat doctrinal de saint Dominique en milieu cathare. Car ne nous y trompons pas, l'objectif était uniquement de convertir les âmes trompées par l'hérésie cathare. « Que deviendront les pauvres pécheurs ?» répétait inlassablement le saint dans sa prière. Tel était l'unique motif qui l'inspirait et qui expliquait à la fois sa grande fermeté pour la pureté de la doctrine et sa grande bonté envers les âmes. Une bonté joyeuse qui lui gagnait tous les cœurs. Il accueillait tout le monde dans le sein de sa charité, dit de lui le bienheureux Jourdain. Saint Dominique, vous le voyez, n'avait rien du zèle amer des fanatiques. Toutefois, et c'est saint Thomas qui continue, si cet effort de persuasion de ceux qui sont trompés par l'hérésie est bon et louable, saint Thomas précise qu'il ne vaut pas pour les hérétiques formels ou les apostats, qui, eux, je cite, doivent être poussés, même corporellement, à tenir la foi qu'ils ont reçue et promis de garder. Ce sont des baptisés, ils ont promis d'être fidèles, et ils ont tout rejeté, tout renié. Cette phrase peut paraître étonnante, la miséricorde ici ne jouerait-elle plus? Alors saint Thomas explique. En ce qui concerne les hérétiques, dit-il, il y a deux choses à considérer, une de leur côté et une autre du côté de l'Église. De leur côté, il y a péché. Péché par lequel ils ont mérité non seulement d'être séparés de l'Église par l'excommunication, mais aussi d'être retranchés du monde par la mort. Oui, saint Thomas n'y va pas de main morte. En effet, il est beaucoup plus grave de corrompre la foi qui assure la vie de l'âme que de falsifier la monnaie qui sert à la vie temporelle. Par conséquent, si les faux monnayeurs ou autres malfaiteurs sont immédiatement mis à mort en bonne justice par les princes séculiers, bien davantage les hérétiques, aussitôt qu'ils sont convaincus d'hérésie, peuvent-ils être non seulement excommuniés, mais très justement mis à mort. Alors ça, c'est du côté de l'hérétique. Mais du côté de l'Église, au contraire, il y a une miséricorde en vue de la conversion des égarés, c'est toujours saint Thomas qui parle. C'est pourquoi elle ne condamne pas tout de suite, mais après un premier et un second avertissement, comme l'enseigne l'apôtre. Après cela, en revanche, s'il se trouve que l'hérétique s'obstine encore, l'Église, n'espérant plus qu'il se convertisse, pourvoit au salut des autres en le séparant d'elle par une sentence d'excommunication. Et ultérieurement, elle l'abandonne au jugement séculier pour qu'il soit retranché du monde par la mort. Saint Jérôme dit en effet ceci qu'on trouve dans les Décrétales, il faut couper les chairs pourries et chasser de la bergerie la brebis galeuse, de peur que tout le troupeau ne souffre, ne se corrompe, ne pourrisse et dépérisse. Arius dans Alexandrie, Arius, l'hérétique Arius au IVe siècle, dans Alexandrie fut une étincelle, mais parce qu'il n'a pas été aussitôt étouffé, son incendie a tout ravagé. Effectivement, le monde chrétien tout entier est devenu hérétique. Mes frères, ces paroles de saint Thomas sont parfaitement justes et elles constituent la meilleure explication de l'inquisition que l'Église a précisément confiée à l'ordre de saint Dominique. Sans doute, quoi qu'en ait pensé la majorité des historiens jusqu'au XVIIIe siècle, saint Dominique ne fut pas, semble-t-il, le fondateur de l'inquisition. En effet, l'institution officielle du tribunal de l'inquisition date de 1232 en Italie et de 1233 en Languedoc. À cette date, saint Dominique était mort depuis plus de 10 ans. Mais s'il n'a pas fondé l'inquisition, saint Dominique en a, avant la lettre, exercé la fonction et réalisé l'esprit. Saint Dominique et ses premiers compagnons furent en quelque sorte des inquisiteurs en même temps que des prêcheurs. On possède d'ailleurs, écrit de la main de saint Dominique, un certificat de réconciliation délivré vers 1208 un certain Ponce Roger, hérétique converti, qui le condamne à diverses pénitences et à des peines spirituelles. Voici ce que ce billet dit, il est de la main de saint Dominique. Nous lui commandons, en vertu du sacrement qu'il a reçu, il avait été pardonné par le sacrement de pénitence, et puis par une absolution externe, nous lui commandons de se faire conduire par le prêtre 3 dimanches ou jours de fête, le torse nu frappé de verges, de l'entrée de la localité jusqu'à l'église. Vous voyez, on ne riait pas au Moyen-Âge. De même, il fera 3 carêmes par an. Il portera des vêtements religieux. S'il en a l'opportunité, il entendra la messe chaque jour. Et le libelle se termine par ces mots, s'il méprisait ses observances, nous prescrivons qu'on le tienne pour parjure, hérétique et excommunié, et qu'on le sépare de la communion des fidèles. De la main de saint Dominique. L'esprit moderne s'offusque de ces pratiques qu'il juge discriminatoires, attentatoires à la liberté et à la dignité humaine. Mais mes frères, c'est l'esprit moderne qui a tort. D'abord parce que l'Inquisition ne fut pas animée par l'esprit vindicatif et cruel qu'on lui attribue. C'est tout à fait faux, ce sont des calomnies. L'Église, dans sa miséricorde, a retardé le plus longtemps possible le recours à la répression. Et elle ne l'a exercé qu'avec modération. Elle a d'abord tenté de convertir les hérétiques par des prédications extraordinaires et d'enrayer l'hérésie par des peines spirituelles. C'est ce que saint Dominique a fait. Et ce n'est que devant l'insuffisance de ces mesures et pour éviter que la population ou le pouvoir civil n'exercent eux-mêmes la justice de manière arbitraire qu'elle institua les tribunaux de l'Inquisition, qui assuraient d'ailleurs aux hérétiques un jugement équitable et pondéré. Mais il faut comprendre que les ravages exercés par l'hérésie étaient tels qu'ils mettaient en péril non seulement la foi, mais encore la société chrétienne tout entière, et exigeaient donc parfois le recours au bras séculier. Assurément, l'Église ne nous demande pas de canoniser tout ce qu'elle a fait pour la défense de la foi, mais elle nous demande de le comprendre. Elle a toujours eu deux choses en vue dans ce bon combat qu'elle a mené pour la foi. La pureté de la foi en elle-même et son intégrité dans l'âme des croyants. Les hommes du Moyen-Âge, parce qu'ils étaient profondément chrétiens, avaient vivement conscience du devoir capital et du bienfait souverain de maintenir la pureté de la foi. Ils professaient envers l'infidélité et notoirement envers l'hérésie une sainte horreur qui n'existe plus chez les chrétiens d'aujourd'hui. Notre époque ne connaît plus rien de cela, ne le comprend plus. Sous l'influence de l'hérésie, précisément, et par la contagion des pays chrétiens que le protestantisme et le libéralisme ont le plus infesté, on a tout brouillé, tout amoindri. Diminute sunt veritates, les vérités sont diminuées par les enfants des hommes. Déjà le psalmiste s'en plaignait. On pense aujourd'hui qu'il faut être de son temps, penser comme son temps. Même les bons catholiques, même les bons tradis, même les saints gens ne sont pas exempts de cet état d'esprit. Il faut bien le reconnaître. Or, disons-le hardiment, l'Inquisition est une des gloires de l'ordre de saint Dominique. Et il n'y a pas à en rougir. Elle est parfaitement conforme à l'esprit de saint Dominique. Les premiers martyrs de l'ordre, d'ailleurs, furent tous ou presque tous des inquisiteurs. Le bienheureux Guillaume de Nogaret et ses compagnons, assassinés à Avignonnet par les hommes du comte de Toulouse en 1242. Saint Pierre de Vérone, massacré en 1252. Et beaucoup d'autres, la liste est quasi infinie. Pourtant, et c'est bien triste, les dominicains eux-mêmes renient aujourd'hui cette page glorieuse de leur histoire. Et l'exemple vient de loin et de haut. Le père Lacordaire, pour ne citer que lui, lorsqu'il forma en 1839 le projet de rétablir en France l'ordre des prêcheurs détruit par la Révolution, rédigea un mémoire pour attirer à son projet la bienveillance du peuple catholique. Mais dans son désir d'accréditer son œuvre de restauration auprès d'un public plus ou moins libéral, il s'appliqua à voiler certains traits de l'histoire dominicaine, et spécialement le chapitre de l'Inquisition. Sous sa plume, l'Inquisition dominicaine n'était plus qu'un accident regrettable, accepté par les dominicains par la force des choses, sans leur avoir été jamais explicitement confié. Don Guéranger, fort heureusement, mieux informé de l'histoire ecclésiastique, et surtout homme d'Église avant tout, lui reprocha à juste titre cette déloyauté. Un gentilhomme ne renie pas son écusson. Vous connaissez, mes frères, pour terminer, cette parole souvent citée d'Ernest Hello. Quiconque aime la vérité déteste l'erreur. Ernest Hello continue, « Ceci est aussi près de la naïveté que du paradoxe, mais cette détestation de l'erreur est la pierre de touche à laquelle se reconnaît l'amour de la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous pouvez jusqu'à un certain point dire que vous l'aimez et même le faire croire, mais soyez sûr qu'en ce cas, vous manquerez d'horreur pour ce qui est faux, et à ce signe, on reconnaîtra que vous n'aimez pas la vérité. Il faut avoir l'horreur de ce qui est faux. Ici-bas, à cause du péché, la vérité est ordinairement placée entre diverses erreurs, erreurs qui la défigurent, qui constituent autant d'obstacles qui empêchent de la connaître et d'y adhérer. Et c'est pourquoi on ne peut pas enseigner la vérité sans en même temps dénoncer l'erreur. C'est une gageure. La lumière ne fait pas qu'éclairer, elle chasse également les ténèbres. Et pour éclairer, elle doit d'abord chasser les ténèbres. C'est comme ça. Bien plus, la vérité est mise en évidence quand elle est confrontée à l'erreur. Et ça, c'est très important. La vérité apparaît plus clairement quand elle est mise en face de son contraire. C'est le principe même de l'enseignement scolastique. Pour résoudre une question et trouver la vérité à son sujet, les auteurs scolastiques et saint Thomas le premier commençaient par l'opposer aux opinions contraires. Et grâce à cette confrontation, ils pouvaient dégager le principe de solution. C'est ce qui explique que saint Thomas, dans tous les articles de sa somme, et même de toute son œuvre, commence toujours par énoncer les principales objections à la question posée. Car la recherche de la vérité n'est pas autre chose, au fond, que la solution des erreurs contraires. C'est la même chose. L'erreur est à l'intelligence ce que les liens sont au corps, expliquait déjà Aristote. Et de même que celui qui veut défaire les liens doit d'abord les examiner soigneusement pour savoir comment les défaire, et bien de même, celui qui veut trouver la vérité doit d'abord examiner tous les aspects de l'erreur qui s'y oppose. Donc vous le voyez, pour toutes ces raisons, et d'autres encore d'ailleurs, on ne peut pas enseigner la vérité sans attaquer l'erreur. Ce n'est pas possible. Alors terminons par une citation du cardinal Pi. Elle illustre parfaitement la prédication de saint Dominique et son esprit tel que nous venons de l'expliquer. C'est une citation qui date de 1841. À ce moment-là, le cardinal Pi n'était encore que le jeune abbé Pi, tout jeune prêtre. Et pour sa prédication de carême, il avait décidé de parler de la dénonciation de l'erreur. Et voici ce qu'il disait. C'est un texte célèbre, mais qui est très intéressant à méditer. Où est la vérité? Là est l'intolérance. La vérité est placée entre les sectes diverses comme l'enfant entre ces deux femmes du jugement de Salomon. Vous vous souvenez de cette histoire? À laquelle l'adjugerez-vous? Dites qu'on vous apporte un glaive. Feignez de trancher, et alors examinez le visage que feront les prétendantes. Il y en aura plusieurs qui se résigneront à la part qui va leur être livrée. Déclarez aussitôt, celles-là ne sont pas les mères. Mais il en est une autre, qui, se refusant à toute composition, dira « C'est à moi qu'appartient la vérité tout entière. Je ne souffrirai pas qu'elle soit morcelée et coupée. » Alors dites « Celle-là est la véritable mère. » Quoi ? Tandis que le démon déploie toute son énergie d'action et de langage, nous, prêtres de l'Évangile, on voudrait nous renfermer dans le cercle étroit de je ne sais quel modérantisme, confinant notre parole dans quelques vagues homélies et quelques thèses de morale ? Non, non, tant qu'une goutte de sang coulera dans nos veines, nous protesterons, Seigneur, du geste et de la voix, contre l'effort audacieux et insolent de l'erreur. Predica verbum, insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa, in omni patientia et doctrina. Vous avez reconnu le texte de saint Paul qu'on lit dans l'épître de la messe des docteurs. Prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, argumente, reprend, corrige en toute patience et en toute doctrine. Vous entendez, mes frères, continue le cardinal Pi, ces dernières paroles. Charité dans le cœur du prêtre, in omni patientia, mais vérité dans sa bouche, in omni doctrina. C'est la règle que prescrit saint Paul à Timothée. Eh bien, ce doit être aussi notre règle. Charité vis-à-vis des âmes, mais vérité vis-à-vis de la foi. Mes frères, prions pour que nous soyons vraiment des dominicanes, des chiens du Seigneur, non pas des chiens muets, mais des chiens qui prêchent, qui disent la vérité et qui n'hésitent pas à condamner l'erreur. parce que c'est ainsi qu'on prêche vraiment la vérité. Demandons toutes ces grâces à Notre-Dame de tout notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.